Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, tout pile, nous sommes le mardi 12 mars 2019 et on souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui à des stars aussi différentes que Liza Minnelli.
New York, New York.
Mais aussi Stromae. Ou encore Pete Doherty.
She's the last of the English.
Plus destroy encore que Pete Doherty, on souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui à Jean-Vincent Placé. Enfin, last but not least, on fait un gros bisou à Nelson Montfort, dont certaines traductions en direct resteront jamais cultes, comme celle de Michael Chang après sa victoire à Roland Garros.
I'd like to thank my brother and coach.
Et puis enfin, j'aimerais remercier ma maman, mon papa,
Jeff Austin.
Et j'aimerais également remercier Luigi, me semble-t-il avoir compris, car sans lui, je ne.
Il a remercié Jésus.
Joyeux anniversaire, Nelson! À mes côtés pour vous accompagner tout au long de ces deux heures d'info et de bonne humeur, mes fées du petit matin. Vous entendez leur rire gracieux. Eva Rock et Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour Mathieu,
bonjour Mathieu.
Céline, hier, l'image du corps musculeux de Brad Pitt dans le film 3 vous est en revenu en mémoire. Vous n'avez pas délivré vos points météo les plus clairs. On tâche de se reprendre aujourd'hui. Allez, 1, 2, 3. Non, pas 3. Enfin, point météo, quoi. Dites-nous à quoi ressemble le temps aujourd'hui.
Eh bien, un temps assez calme finalement avec des éclaircies, mais il y a une perturbation qui arrive par les côtes de la Manche. Et puis on aura de la pluie qui va se décaler, qui va traverser toute la France du nord-ouest jusqu'au sud-est. Par exemple, à Paris, on aura la pluie en fin d'après-midi, par exemple.
Tout va se passer en diagonale.
En attendant, c'est plutôt ensoleillé, plutôt calme.
Eh bien, tant mieux. Eva Rock, de votre côté, quelle question avez-vous choisi de poser à nos auditeurs? C'est l'anniversaire de Jean-Vincent Placé. Donnez-nous votre recette de cocktail favori.
Non, c'est pas ça. C'était le 12 mars 1613. Naissait aussi André Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV.
Ah, tiens, je l'avais raté, cet anniversaire-là.
Oui. Alors, à cette occasion, on vous demande, est-ce que vous avez la main verte ou c'est la cata dès qu'on vous offre un bonsaï? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous dans notre jardin
en ce moment? Un bonsaï, il faut plus que la main verte. Hein. C'est très compliqué à entretenir un bonsaï. C'est pas comme un
C'était fait exprès. Donc vous nous dites tout sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci mesdames, vous écoutez. Le 5-7 informé mérilleur qui brasse tous les sujets d'actu sans jamais tomber dans le côté café du commerce, pas vrai Céline?
Mais si c'est l'heure d'été, au mois de décembre à Brest, le jour va se lever à 10h.
Oui bon, allez, le copain, c'est parti.
Bienvenue à vous en ce mardi 12 mars sur Europe 1. Et très bon réveil, il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce mardi 12 mars est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Est-ce l'ouverture d'une nouvelle ère en Algérie sous la pression populaire? Le président Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, renonce à briguer un cinquième mandat. Il annonce le report du scrutin présidentiel, mais en attendant, il reste le chef de l'État. Medine Mouche, condamné à la prison à vie par la justice belge, le djihadiste français reconnu coupable des 4 assassinats du musée juif de Bruxelles en 2014. Et puis écran, bruit, stress, les Français dorment de moins en moins. Pour la première fois, le temps de sommeil moyen passe sous la barre des 7 heures par nuit, seuil recommandé pour une bonne récupération.
Europe 1.
Pacifiquement, on a fait tomber la marionnette. Les paroles de l'un des chants entonnés sans faiblir par des milliers d'Algérois en liesse depuis hier en fin de journée. L'annonce, Abdelaziz Bouteflika renonce, pas de cinquième mandat présidentiel. 3 semaines de mobilisation partout en Algérie ont fait céder le chef de l'État, 82 ans, affaibli par les conséquences d'un AVC. Pas de scrutin présidentiel le 18 avril, date repoussée sine die, ce qui ne signifie pas pour autant qu'Abdelaziz Bouteflika lâche le pouvoir. Jihan Bergaoui.
Dans sa longue lettre adressée à la nation et en particulier à la jeunesse, Abdelaziz Bouteflika dit comprendre le message de la rue et des manifestants. Pour lui, ce renoncement, c'est la voie d'un sursaut collectif pacifique. Il l'écrit très explicitement. Il n'y aura pas de cinquième mandat. Il n'en a jamais été question, selon lui, en raison de son état de santé et de son âge. Il reporte également la présidentielle du 18 avril à une date encore inconnue. Il fait une autre concession en évoquant la création d'une conférence nationale représentative de la société algérienne. Elle sera chargée de réformer le système politique, mais surtout d'élaborer un projet de constitution d'ici la fin de l'année. En attendant, Abdelaziz Bouteflika prolonge donc sa présidence. Le pouvoir cède sur le cinquième mandat, mais garde la main sur la gestion de la transition.
Jihan Bergaoui et par la voix de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, la France, je cite, salue la décision d'Abdelaziz Bouteflika.
Europe 1, il est 5h03.
La prison à vie pour Mehdi Nemouche, condamné par la justice belge, reconnu coupable des 4 assassinats terroristes du musée juif de Bruxelles en 2014. La cour d'assises a souligné l'absence de regret du djihadiste français pendant le procès et un antisémitisme marqué. Une peine de 15 ans a par ailleurs été prononcée contre l'homme qui avait fourni les armes. La mobilisation des gardiens de prison ne faiblit pas après l'agression au couteau de 2 d'entre eux à Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé. Le fonctionnement d'une 15aine de prisons reste perturbé, cela fait une semaine. Fleury-Mérogis, Les Baumettes, mais aussi Mulhouse, Strasbourg, Gradignan ou encore Nantes. Le directeur de l'administration pénitentiaire a reçu hier les syndicats. FO s'est dit satisfait. Une rencontre avec la garde des Sceaux doit avoir lieu jeudi matin.
Les États-Unis somment Boeing de réagir.
Après le crash d'un de leurs appareils en Éthiopie dimanche, 157 morts dont 9 Français, Washington oblige la compagnie a procédé à des modifications sur ses modèles 737 MAX 8 et 737 MAX 9 sans toutefois les interdire de vol, en cause notamment les logiciels de contrôle en cas de décrochage de l'avion. Dans le sillage de la Chine hier, plusieurs pays ont interdit les vols de ces Boeing, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Mongolie et cette nuit, Singapour les interdit dans son espace aérien. Deuxième vote du Parlement britannique sur le Brexit aujourd'hui après le rejet massif de janvier. Il n'y aura pas de troisième chance, avertit Bruxelles. La Première ministre Theresa May a assuré hier avoir obtenu de nouvelles garanties contraignantes après des discussions de dernière minute à Strasbourg. Elles éviteraient notamment le retour d'une frontière physique en Irlande du Nord. Le Brexit doit en principe intervenir dans 17 jours. Et puis, nouvelle journée chômée aujourd'hui au Venezuela, toujours en grande partie plongée dans le noir, panne massive d'électricité depuis 4 jours. L'Assemblée nationale, dominée par les partisans de l'opposant Juan Guaido, place le pays en état d'alerte et fait appel à l'aide internationale.
Nous finissons, Jérôme, avec ce constat que je suis en mesure de confirmer. Les Français dorment de moins en moins.
Moins de 7 heures par nuit en semaine. 6h36 selon le baromètre Santé publique France dont on apprend ce matin les résultats en cause. Plus de travail de nuit, les écrans, le stress ou encore des trajets domicile-travail plus longs. C'est la première fois que cette moyenne passe en dessous de la barre des 7 heures et c'est au détriment de la santé. Les médecins s'en inquiètent. Pour Europe 1, Bastien Munch est allé interroger des Français dont le sommeil n'est pas toujours serein.
Je dors pas beaucoup par nuit, environ 5 heures en général, parce que je finis tard l'école, j'habite à 2 heures de ma fac, donc le temps de rentrer, des fois j'arrive à 22 heures chez moi. J'essaye de pas dormir dans le train le matin, mais en même temps, souvent je m'endors quand même sans le vouloir, quoi, parce que je suis trop fatiguée.
Je dors vraiment mal, je suis crevé. Parce que je dois travailler et parce que j'ai 2 boulots. J'ai un boulot en journée, je suis commercial, et puis le soir je travaille dans un salon de thé en plus. Souvent j'arrive pas à m'endormir, du coup je prends de la mélatonine. Sinon, parfois je me réveille en plein milieu de la nuit, je fais des cauchemars. Le stress dû au boulot, à la mauvaise santé de ma famille.
Je fais des nuits de 5 à 6 heures, pas plus, quoi. Donc pour récupérer, pour être bien dans ma tête, je m'impose un pénéqué, c'est-à-dire une petite sieste, environ 2 fois par semaine, mais pas plus de 45 minutes, hein, parce qu'après le soir, je peux plus dormir et après je rentre dans un cercle infernal de manque de sommeil, me coucher trop tard, me lever trop tôt, et après ça devient infernal.
Des propos recueillis par Bastien Munch. Ça va, vous, le sommeil, Mathieu ?
Ça va bien, ça va très très bien. Moi, ça me va. Je dors, mais vous savez que je dors 7 heures au total.
Si on cumule,
on passe au journal des sports, Jérôme. À la une, le retour du roi.
Le roi Zidane, Zizou, reprend du service, et oui, à la tête de l'équipe première de son club de cœur, le Real Madrid, où il a joué 5 saisons au début des années 2000, où il a achevé sa carrière de joueur, où il a entamé sa deuxième vie d'entraîneur, 2 saisons et demie, auréolé de 9 trophées, dont 3 Ligues des Champions d'affilée, s'il vous plaît. Il a été rappelé par le président Florentino Pérez, alors que le club castillan traverse une période noire, éliminé de la Ligue des Champions. Il n'y aura aucun titre cette année, alors le défi est très grand pour Zidane, qui a plus à y perdre qu'à y gagner. Mais voilà, mon cœur m'a dit « tu t'es bien reposé », c'est ce qu'il a expliqué, c'est ce qu'a expliqué l'icône des Bleus hier lors de sa présentation. Il y a 9 mois, il quittait Madrid au fait de sa gloire.
Le vestiaire avait besoin de ça. Je ne me suis pas fait plaisir en fait en partant. Mais ce que je pense, c'était qu'après 2 ans et demi et après avoir gagné beaucoup de choses, il fallait un changement. Ça fait 9 mois que je suis au repos et j'ai envie de reprendre. Ouais. Parce que j'ai eu des propositions pour reprendre. J'aurais pu partir ailleurs, j'ai pas envie de partir ailleurs, j'ai envie de reprendre aussi. Et maintenant, il va falloir terminer bien la saison et préparer surtout la prochaine.
Des propos recueillis par Henri de Laguérie pour Europe 1, première séance d'entraînement dès aujourd'hui. Son nouveau contrat court jusqu'en 2022 et Zidane aura la main sur le recrutement pour la saison prochaine. Neymar, le Belge Eden Hazard et aussi Kylian Mbappé pourraient être visés. Prochain match samedi à domicile face au Celta Vigo.
Attention Zizou, j'ai un coup d'avance sur le recrutement. Bon, dans FIFA 2019, mais Eden Hazard, il est déjà chez moi. Ce soir, Ligue des Champions.
2 huitièmes de finale retour, 21h, Manchester City, Schalke 04, victoire mancunienne 3 3-2 à l'aller et Juventus Turin Atlético Madrid, victoire madrilène 2-0 à l'aller. Demain, Barcelone-Lyon 1-0 à l'aller et soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h. Le foot en France, c'est ce résultat de Ligue 2. Metz concède le nul un partout à domicile contre Sochaux, dernier match de la 28e journée. Les Messins restent premiers, 4 points d'avance sur Brest. Les Sochaliens sont 18e.
Et on termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
1. Il ne reste plus qu'un seul joueur français en lice au tournoi californien de tennis d'Indian Wells. C'est Gaël Monfils, le numéro 1 tricolore, toujours en forme, qualifié pour les 8e de finale à la faveur d'une 14e victoire cette année pour seulement 3 défaites. 6-0, 6-3 face à l'Espagnol Ramos. Gilles Simon a lui été éliminé par l'Autrichien Thiem.
Thiem, hein, on dit donc Thiem et non pas Thiem. Oh, heureusement que je ne suis pas tombé dessus, j'aurais dit Thiem.
Dominique Thiem.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent avec un point météo suivi du pressing, notre célèbre revue de presse en mode zapping. Et puis, je sais que vous y avez déjà pensé, je lis en vous comme dans un livre ouvert, cher auditeur, changez de vie. Pour vous aider à franchir le pas chaque matin dans Fallait Oser, Europe 1 vous propose de découvrir les témoignages de ceux qui l'ont fait. Ce matin, rencontre avec Yannick, il vendait des produits beauté, il tient aujourd'hui une animalerie.
De chiennes et de chattes.
Oui, entre autres, Eva, entre autres.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
Nous faisons un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Un ciel plutôt agréable avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation.
Exactement, et elle arrive par les côtes de la Manche, cette perturbation dès ce matin, avec de la pluie, de bonnes rafales de vent, des averses parfois soutenues qui toucheront toutes les régions entre les Pays de la Loire et le Pas-de-Calais dans la matinée. Ça va commencer par la Bretagne. Et puis, cette perturbation va se décaler vers le Poitou-Charentes, la région Centre-Île-de-France, les Ardennes. Ça sera en milieu d'après-midi, en fin même d'après-midi, 16-17h. Et puis, elle va continuer son chemin, cette perturbation, vers le sud-est. Mais en attendant, ce passage pluvieux, eh bien le ciel sera clément et assez ensoleillé, ce qui nous donne des températures douces pour cet après-midi puisque la moyenne ira de 11 à 20 degrés du nord au sud. On attend 13 degrés à Paris, 16 à Lyon et 20 à Agen. Ce matin, en revanche, il fait froid avec même le retour de gelée, donc on se couvre.
Merci Céline. Eva Rock.
Le 12 mars 1613 naissait André Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV. Alors à cette occasion, on vous demande sur Twitter et vous nous répondez avec le hashtag Europe 1, est-ce que vous avez la main verte ou est-ce que c'est une cata dès qu'on vous donne une plante? Que faut-il faire dans son jardin au mois de mars? Donnez-nous nos conseils.
On peut faire plein de choses dans son jardin, Eva.
C'est vrai. Alors sur Twitter justement, RCMA62 nous dit, pour la première année, j'ai fait des semis de légumes et vu les résultats, je vais encore ouvrir des boîtes de conserve pendant un bon moment. Et Taco nous dit, elle est surnommée la main noire, elle tue toutes les plantes, même les cactus. Elle s'obstine pourtant, elle vient de planter des plantes aromatiques. Vous nous envoyez une petite photo dans quelques semaines pour voir le résultat et puis vous continuez à réagir sur Twitter.
Moi j'ai fait un truc super ce week-end avec mon fils, on a planté des petites tomates.
Ah, mais j'ai
des tomates cerises dans une petite serre et après on va les mettre dehors et les replanter.
J'allais vous le dire, c'est le seul truc à pousser sur mon balcon, c'est tomates cerises.
Ça marche bien normalement. C'est vraiment bien. Moi je vous conseille les tomates
cerises.
C'est le moment de les planter, oui.
Ah d'accord. Vous avez la main verte.
Bon, merci quand même, Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, chouchoute vos zygomatiques, mais stimule aussi votre imagination en vous faisant découvrir chaque matin un homme ou une femme qui a su se réinventer, changer de vie. Ce matin, je vous présente Yannick Amar. Il vendait des produits de beauté. Un jour, il s'est dit, il y en a marre. Voilà, alors il a 45 ans, oui, c'était une des meilleures. Yannick Amar, 45 ans, il vit à Coquel dans les Hauts-de-France et après avoir été directeur commercial dans la cosmétique pendant 25 ans, il a décidé de quitter Paris et d'ouvrir une animalerie.
Fallait oser.
Je suis un passionné d'animaux, ça a démarré quand j'étais en CM2, donc je devais avoir quoi, une dizaine d'années. On élevait des poussins dans le fond de la classe avec un professeur qui s'appelait Monsieur Uriot. Je suis rentré à la maison, j'ai ramené des poussins, 15 jours après j'ai ramené un lapin nain. L'idée d'ouvrir une animalerie, c'est pas forcément une histoire de déclic, c'est que je me suis un peu construit professionnellement en me disant à 45 ans, à force de faire pour les autres des choses, un jour tu voleras tes propres ailes. C'est plus dans ce sens-là que ça s'est fait en fait.
Il a réfléchi au projet il y a 2 ans et a opté pour l'ouverture d'un magasin franchisé, un investissement financier mais aussi personnel.
Bah oui, parce qu'il s'est, Yannick, éloigné de sa famille pour lancer son projet. Il a mis toutes ses économies dans cet établissement. Il est retourné vivre chez ses parents, mais pour lui, ce changement en valait la peine et sa conception du travail a été complètement modifiée.
C'est vraiment très très bizarre parce que j'ai le sentiment, alors j'avais déjà une grande autonomie dans les sociétés dans lesquelles je bossais, mais là c'est complètement différent. J'ai une de mes filles qui m'a dit la semaine dernière, t'es partie au travail à quelle heure? Et je lui dis, mais de quoi tu me parles? Papa il travaille plus chérie. Et là elle me dit, si papa tu travailles. Ah je dis oui, oh, excuse-moi. Et en fait j'avais complètement décroché, c'est-à-dire que dans ma tête, je travaille plus. Je me lève pour faire quelque chose qui, un, m'appartient, et deux, qui me fait plaisir. C'est un état d'esprit que je suis en train d'appréhender qui s'appelle l'entrepreneuriat, en fait.
Tom & Co. est ouvert depuis le 27 février. On peut y trouver des jouets, des accessoires et des services. C'est notamment le premier drive animalier de France.
Alors, vous pouvez vous renseigner sur le site web tom&co.fr. Et puis, je vous rappelle que si vous avez changé de vie, de métier, que vous voulez nous faire partager votre expérience, vous nous envoyez un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures à cheval entre le journalisme et le divertissement burlesque. À suivre, la culture appartient à ceux qui se lèvent tôt car ils peuvent réserver leur place avant les autres feignasses qui se lèvent plus tard. Ne manquez pas les conseils de nos experts culture et nouvelles technologies dans Mardi les bons tuyaux. Et puis, c'est probablement le seul médecin à prendre des consultations à partir de 5h40. Gratuite en plus, le docteur Ichou arrive pour votre point santé. Aujourd'hui, zoom sur la fièvre. À partir de quelle température faut-il s'inquiéter? Quand prendre du Doliprane? Quand ne pas en prendre? Parce que le corps a aussi besoin de la fièvre pour se guérir. Le bon docteur nous dit tout. Juste après, un premier interlude musical. Voici Calogero et 1987 sur Europe.
Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Liesse, concert de klaxons et applaudissements en Algérie. Sous la pression populaire, le président Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, renonce à briguer un cinquième mandat. Il annonce le report du scrutin présidentiel, mais en attendant, il reste le chef de l'État. Mehdi Nemmouche, condamné à la prison à vie par la justice belge, le djihadiste français a été reconnu coupable des 4 assassinats du musée juif de Bruxelles en 2014. Enfin, les États-Unis somment Boeing de réagir après le crash d'un de leurs appareils en Éthiopie dimanche. 157 morts, dont 9 français. Washington oblige la compagnie a procédé à des modifications sur ses modèles 737 MAX 8 et MAX 9 sans toutefois les interdire de vol, en cause notamment les logiciels de contrôle en cas de décrochage de l'avion.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 12 mars, mais pour être tout à fait complet, il nous reste à découvrir sur qui miser aujourd'hui à Chantilly. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Chantilly et mon pari gagnant sera le 111 Aprilios. Après avoir soufflé le chaud et le froid l'an dernier, il a visiblement recouvré la plénitude de ses moyens. Très performant cet hiver à Cagnes-sur-Mer, il va tenter de mettre à profit sa condition physique avancée, mais aussi son aptitude au sable fibré pour effectuer un retour gagnant chez lui à Chantilly, un hippodrome sur lequel il a toujours bien réussi. Alors notez bien, pour cet après-midi à Chantilly, réunion 1, dans la première course, le numéro 11, Aprilios.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et à l'heure d'ouvrir la séquence la plus voyeuriste de notre émission, ce moment où toute la coloc se retrouve autour de la table du petit déjeuner pour ouvrir la presse du jour, on peut parler aujourd'hui, pour paraphraser Jérôme Lacroix, de climat olfactif lourd. Ou plutôt, vu la pilosité latine de l'individu qui s'échappe à pas de loup de la chambre des Varocs, de climata olfactivo muy lourdo. Les aficionados de notre émission l'auront reconnu à son chapeau et ses mariachis. Don Chibro, le nouvel allemand mexicain des Varocs, a encore frappé. Eva a choisi de lui donner, oui, une deuxième chance. La porte de sa chambre étant restée entrouverte, Céline et Gégé ont observé toute la scène.
Idéalement placé derrière.
Hélas pour son fol amant mexicain, au moment de leur accompagner à la porte, c'est la douche froide pour Don Chibro. Les mots sont cruels, le verdict sans détour.
Loser.
Eh oui, certainement le coup du taco suspendu qu'Eva aura trouvé trop acrobatique. En tout cas, tant pis pour Don Chibro. On passe au pressing. Essayez de visualiser Eva en taco suspendu, surtout à 5h19 du matin. Tout ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Avec ou sans sauce.
Mon Dieu, je ne cautionne pas ses propos, Céline.
Non,
pas donc. C'est genre, la transition est toujours compliquée parce qu'on passe de quelque chose de très vulgaire à quelque chose d'éminemment sérieux. Notre revue de presse en mode zapping, c'est la situation en Algérie qui s'étale à la une de vos quotidiens ce matin après l'annonce du président Bouteflika de ne pas briguer finalement un cinquième mandat. Libé titre, première victoire. Le Figaro, l'Algérie tourne la page Bouteflika. Titre plus prudent pour le Parisien avec cette question. Et maintenant, autre une qui retient l'attention, évidemment, celle de l'équipe ce matin, au lendemain du retour de Zidane au Real Madrid, portrait serré du sportif avec ce titre, Zidane tout puissant. Mais vous, mes précieux agneaux, qu'avez-vous déniché dans la presse ce matin?
Eh bien, plusieurs quotidiens se font l'écho ce matin d'une nouvelle offre de Canal+. Vous allez trouver des papiers dans Le Parisien, Le Figaro ou encore Les Échos. Il est question de la création du nouveau service de vidéo à la demande qui est baptisé Canal+ Série. Encore une plateforme.
En plus de MyCanal ?
En plus de MyCanal.
Mais il faut arrêter de multiplier les. Déjà, c'est compliqué quand on n'a plus de plateforme.
Alors, je vous explique. C'est une plateforme.
C'est une
plateforme. Oui, mais on va le partager, je pense.
D'accord.
C'est une plateforme qui est déconnectée d'un quelconque abonnement à Canal+. Donc, il n'y a pas d'engagement. C'est comme une plateforme de type Netflix, mais qui est évidemment payante. De 6,99€ à 11,99€.
Ça n'est pas donné.
Pas donné. Pas de films, pas de dessins animés non plus, que des séries. 150 séries environ, soit 5000 épisodes à 90% en exclusivité totale. Soit donc les créations originales de Canal+, évidemment, les dernières productions de Showtime, FX, Warner Media. Warner Media, c'est par exemple Killing Eve ou Gomorrah pour ceux qui connaissent un peu ce genre de séries. Et puis vous trouverez aussi dessus l'intégralité des saisons de séries cultes telles que Dexter, X-Files ou Twin Peaks. Alors forcément, face au mastodonte Netflix, ça paraît un peu faible comme offre. Ce n'est pas une réponse à Netflix, mais une offre complémentaire, a précisé Maxime Saada.
On doit prendre un abonnement en plus de Netflix.
Voilà, le président du directeur du groupe Canal+. Nous voilà donc rassurés. C'est une offre complémentaire. Alors d'ailleurs, les investissements ne sont pas comparables. Canal+ envisage de produire en 2020 une douzaine de séries contre 7 à 8 actuellement. Vous voyez, par rapport aux productions Netflix, ça n'a rien à voir. Maxime Saada, il affirme pas ailleurs. On proposera peut-être moins de séries, mais ce seront les meilleures. Nous ne sommes pas dans une logique quantitative. Et il ajoute... 150 séries sont suffisantes pour nourrir 5 ans de la vie d'un abonné. Alors, sincèrement, c'est mal connaître les gros consommateurs du genre qui sont capables d'abord de passer des nuits devant leur écran, qui sont capables surtout de zapper quand la série ne leur plaît pas. Parce que c'est facile de dire vous avez 150 séries, mais s'il y en a 100 qui ne vous plaisent pas, c'est quand même plus compliqué. Moi, j'avoue être très très sceptique sur cette façon de morceler les offres. Parce que comme vous le disiez, Mathieu, c'est Canal, c'est MyCanal. Et maintenant, Canal+ série. Et alors, l'argument de Franck Cadoret, qui est numéro 2 de Canal+, ne m'a guère plus convaincu. Il dit, à ce prix-là, qu'est-ce qu'on va aller s'en mettre ?
Il a gardé quelques amis dans le groupe Canal+, c'est vrai. Je
vais me faire gronder, mais il dit, c'est lui qui l'a dit hier en conférence de presse, à ce prix-là, qu'est-ce qu'on va aller s'emmerder à pirater ? Le piratage qui priverait Canal+, a priori, de 500 000 abonnés selon la direction. Ben moi, je crains que pour une offre dite complémentaire, ça commence surtout à faire très très cher.
Oui, parce que même si 6€ ou 11€, c'est pas énorme en soi, c'est le problème que ça s'ajoute à toutes les autres.
Mais
si c'est une offre
sûr.
Complémentaire,
bien
ça s'ajoute
sûr,
à toutes les autres, tous les autres
question.
Abonnements. Céline. Oui.
Est-ce que ça veut dire, s'il propose une offre uniquement pour les séries, que les séries vont être enlevées de MyCanal ?
Non, vous les aurez.
Ou le frisson qui est passé dans
la pour les gens, voilà, pour les gens qui payent 40€ pour MyCanal, ils y auront
toujours nos séries, Céline.
C'est ça. C'est vraiment pour les jeunes et pour ceux qui n'ont pas Canal d'avoir cette offre série.
Justement, Céline, je vous laisse la parole.
Eh bien, ce matin, je vous parle de Marie-Ange Prédalli. Elle est maman, elle vit en Corse et elle a eu l'idée, une idée qu'Eva Rock, quand je lui en ai parlé, a qualifiée de machiavélique. Forte de son expérience et de celle de ses amis, cette maman, avec qui elle discute forcément de ses enfants, s'est rendue compte que ces derniers passaient beaucoup, beaucoup de temps sur leur smartphone et a eu l'idée de créer une application, une sorte de contrôle parental pédagogique qui permet aux parents de bloquer les applications les plus utilisées par leur progéniture. Alors, l'application,
ça
elle s'appelle...
Ça doit marcher pour les tout-petits, hein,
allez voir, pas du tout. L'application s'appelle StudiApp et a un mode de fonctionnement très simple. Le parent l'installe sur son téléphone en créant un compte et un mot de passe. Le téléphone de l'enfant y est couplé. C'est une sorte de petit espion. Ensuite, le parent choisit les applis les plus utilisées par son enfant. On peut choisir de les filtrer tout le temps ou seulement quelques heures dans la journée. Et le piège pédagogique est en place. Alors, comment ça se passe ensuite ? Eh bien, par exemple, au bout d'une heure passée sur Snapchat, l'appli, donc c'est vraiment pour les ados là pour le coup, l'appli se bloque et un QCM, questionnaire à choix multiples, apparaît sur le programme scolaire de votre enfant. L'enfant doit répondre correctement pour que l'appli se déverrouille. Sinon, il doit attendre le prochain QCM. C'est vraiment une très bonne idée. Marie-Ange Prédalli précise que le nombre de questions et les matières concernées sont définies par les parents, qui peuvent aussi comme ça les adapter aux difficultés scolaires de leurs enfants. Et elle a vraiment pensé à tout. Il faut dire qu'elle est enseignante, qu'elle a élaboré ses questionnaires avec d'autres enseignants en s'appuyant sur les programmes officiels du CM2 à la 3e. Elle y a ajouté un bloc culture générale, un bloc en langue corse, puisque je vous rappelle qu'elle vit là-bas. Et un autre fiche de lecture. En parallèle, les parents reçoivent chaque jour un mail, les informant du temps que leur enfant a passé sur son téléphone. Comme on sait que c'est beaucoup, beaucoup de temps, c'est plutôt un bon indicateur. L'enfant, lui, voit le temps qui lui reste avant l'apparition du prochain QCM.
Ah, c'est stressant.
Et des statistiques
vite,
sur ses réponses.
Les messages, vite.
Marie-Ange Prédalli a déjà reçu de belles récompenses pour son idée qui lui ont permis de la développer. L'appli vient d'être testée avec parents et enfants pour repérer les failles et visiblement il n'y en a pas beaucoup. Elle sera dispo sur Android à la fin du mois pour 35€ par an. Et Marie-Ange planche déjà sur des améliorations apportées à cette appli qui est, je trouve, une très bonne idée, comme renvoyer sur des leçons si on a mal compris une question. C'est à lire dans Corps ce matin aujourd'hui. Et on félicite Marie-Ange pour son idée. Moi, je vais la télécharger dès que ma fille aura un téléphone. Ce qui n'est pas encore le cas.
Non, mais c'est machiavélique.
Ça peut être extrêmement utile. Jérôme Lacroix.
Un reportage en immersion proposé par Le Parisien aujourd'hui en France. L'une de leurs journalistes a passé toute une journée dans les rues de Paris équipée d'un capteur de particules fines et d'autres composés polluants. Vous allez l'entendre, ça concerne tout le monde, même si vous n'habitez pas dans une grande ville. Alors d'abord, les endroits les plus pollués où le capteur de la journaliste s'affole. La terrasse d'un café, table et chaises installées près d'un carrefour, taux de particules au-dessus du seuil d'alerte français. On n'est pas vraiment surpris. Les quais piétons à Paris, piétons, en cause notamment le trafic fluvial sur la Seine. Ouais, oui. Le métro, pollution des rames, mais aussi dans les couloirs. Pourquoi ? Parce que les bouches d'aération vont chercher l'air directement à l'extérieur, quasiment au pot d'échappement des voitures. On atteint des niveaux chinois, voire indiens, témoigne un expert. Plus surprenant, le parc où vous allez avec vos petits, bah oui, en ville, ce sont des faux amis, écrit le journal, qui est allé au but de Chaumont, malgré la présence d'arbres. Du coup, attention, si vous avez l'habitude de faire votre footing dans un parc, là vous respirez à plein poumon, parce que dans les parcs urbains, eh ben, la pollution elle reste concentrée dans cet espace, malgré la présence d'arbres. Oui, mais en tout cas, le capteur de la journaliste était également sur un taux trop élevé. Encore plus surprenant, et là ça concerne tout le monde, la cuisine, dans votre cuisine. 100 fois plus polluée que le périph', écrit le Parisien. Hein ? Ça alors ? La cuisson d'un steak haché, par exemple, dans cette pièce qui peut être petite, favorise la concentration rapide des particules fines. N'oubliez pas d'activer la hotte, si vous en avez une, c'est la solution. Et pour évacuer tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'ouvrir la fenêtre. Et, Et puis après la cuisine, la chambre. La journaliste constate que toute la nuit, son capteur est resté dans le rouge en cause des composés organiques volatiles potentiellement cancérigène, je veux affoler personne, on le retrouve.
Trop tard.
Mais parce qu'on la retrouve dans les bougies, les encens ou même les cols des meubles neufs. Alors là, j'ai été surpris. Mais les études montrent toutefois que la pollution intérieure reste bien peu dangereuse par rapport à l'extérieur. Les endroits moyennement pollués, là aussi des surprises. Le périphérique pas si catastrophique et le Havre de Paix rassurant.
Bon, on va aller faire le jogging sur le périphérique.
Le Havre de Paix rassurant, une crèche.
Ah, quand même.
Pas du tout pollué.
Très bien. Merci beaucoup, Jérôme. J'ai envie de vous dire merci quand même parce que vous m'avez bien fait flipper. Merci à tous, les amis. Le pressing referme ses portes. Céline, un dernier mot pour l'amant d'Eva, le malheureux Don Chibro. Un mot d'apaisement, peut-être ?
Bite.
Oui, oh non, on l'embrasse.
Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
J'en perds ma feuille. Debout les copains, continue avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Succulent réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Ma chère Céline, si nous faisions un point sur la météo du jour avec une nouvelle perturbation qui arrive par la Manche.
Oui, c'est là qu'on va retrouver un ciel bien couvert dès ce matin avec du vent, 80 km/h en rafale sur les côtes et des averses qui feront leur arrivée d'abord sur la Bretagne dans la matinée et puis elles vont gagner ces averses les Pays de la Loire, la Normandie, le Pas-de-Calais. Averses localement soutenues avec un vent toujours bien présent. Pour le reste du pays, le temps sera calme avec des éclaircies mais les nuages deviendront de plus en plus nombreux à l'approche de cette perturbation qui va traverser la France du nord-ouest au sud-est dans la journée. La pluie devrait gagner l'Île-de-France en fin d'après-midi, aux alentours de 16-17 heures. On va la retrouver entre les Pyrénées et l'Alsace en début de nuit. Et puis, elle continuera son chemin vers les Alpes la nuit prochaine avec des chutes de neige.
Un mot des températures qui baissent encore.
Oui, avec des gelées ce matin. On a par exemple moins 2 degrés à Besançon, Grenoble, Brive, moins 1 à Lyon, à Bergerac, à Charleville-Mézières, 0 degrés à Mulhouse et Albi, 2 degrés à Tours, à Orléans, 4 à Perpignan, 5 à Paris, 7 à Toulon et 10 à Brest. Cet après-midi, en revanche, elle remonte par rapport à hier. La moyenne sera de 11 à 16 degrés sur la moitié nord, avec 13 degrés à Paris, 15 à 20 pour la moitié sud, 20 degrés attendus à Tarbes et Toulouse.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui zigzague entre l'info et l'humour comme un petit dragster fou. À suivre, la nature est bien faite. Contrairement à notre studio où il faut mettre des grands coups de clé de 12 dans le boîtier de la clim pour réussir à régler la température, le corps humain, lui, se régule tout seul.
C'est chiant cette clim. Chaud, froid.
Ce matin, dans votre point santé, le docteur Ichou répond à toutes ces questions que vous posez sur la fièvre, notamment à partir de quelle température faut-il vraiment s'inquiéter.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce 12 mars 2019. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Singapour interdit à son tour les Boeing 737 MAX dans son espace aérien. Conséquence de l'accident qui a fait 157 morts, on en sait désormais un peu plus sur les victimes françaises. Vote définitif aujourd'hui de la proposition de loi anti-casseurs. Emmanuel Macron se pose en garant des libertés publiques et saisit le Conseil constitutionnel. Et puis Zidane le sauveur, il revient entraîner le Real Madrid 9 mois après sa démission surprise. Les détails dans le Journal des Sports avec Jérôme Lacroix.
Europe 1.
Elles permettront sans doute de comprendre enfin ce qui s'est passé. Les deux boîtes noires du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines ont été retrouvées. Sur les 157 victimes, il y avait 9 Français dont on commence à connaître les identités. Sarah Offray, originaire du Finistère, se rendait comme de nombreux autres passagers à la conférence annuelle du programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi au Kenya. Cette trentenaire coordonnait le projet Mer Propre en partenariat avec l'ONU. C'était une baroudeuse passionnée, comme le raconte sa cousine Dani.
Elle aimait ce qu'elle faisait, elle aimait son métier. Elle a fait une conférence à Kérien, l'endroit où elle est née. Elle a fait une conférence au mois de janvier, donc on était allés. C'était une jeune femme très gaie, très avenante, une très jolie brune. Elle était sûre d'elle, quoi. Quand elle parlait, tout ça, elle avait la parole facile. Et puis, depuis que j'ai appris la nouvelle, tout le temps, on pense à elle. On se dit, c'est pas vrai qu'elle soit partie comme ça, quoi. On ne peut pas dire autre chose, la tristesse, quoi.
Un témoignage recueilli par Romane Oquet. Parmi les victimes françaises également, un couple de retraités d'Indre-et-Loire, âgés de 63 et 66 ans. Ils partaient en vacances au Kenya. Et puis un franco-tunisien de 38 ans, engagé dans le développement de l'Afrique et ami d'enfance de l'humoriste Yacine Bellatar. Boeing affirme en tout cas n'avoir aucune raison de donner de nouvelles directives aux opérateurs aériens. Pourtant, 4 mois après un accident similaire en Indonésie, plusieurs pays et compagnies ont décidé de clouer au sol leur 737 MAX. Dernier en date, Singapour, qui ce matin interdit son espace aérien à ce type d'appareil. Aux États-Unis, l'Agence fédérale de l'aviation demande à Boeing de modifier ses modèles au plus tard en avril, mais ne les immobilise pas.
Oui Hélène, on y reviendra tout à l'heure à 6h20 avec l'ex-pilote Gérard Arnoux. Concert de klaxon, démonstration de joie à Alger hier soir.
Oui, la population saluait sa victoire après 3 semaines de manifestation. Le président Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat. L'élection prévue en avril est reportée. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, salue cette décision. Quant à Emmanuel Macron, il devrait s'exprimer ce matin depuis Djibouti, où il vient de commencer un périple en Afrique. Mehdine Emouch, condamné à la perpétuité, verdict prononcé hier soir après 8 heures de délibération aux assises de Bruxelles pour les 4 assassinats terroristes de 2014 au musée juif de la capitale belge. Mehdine Emouch, qui n'a donné aucune explication, est resté impassible à l'annonce de sa peine. Il avait conclu son procès avec cette simple phrase, sourire en coin, la vie continue.
On repart, il est 5h33.
C'est un fait très rare. Emmanuel Macron va saisir le Conseil constitutionnel sur sa propre loi anti-casseurs.
Oui, projet de loi qui doit d'ailleurs être adopté définitivement aujourd'hui après le vote du Sénat. Avant Emmanuel Macron, seul François Hollande avait fait de même. C'était en 2015 pour sa loi renseignement qui posait aussi la question de l'équilibre entre maintien de la sécurité et garantie des libertés publiques. Écoutez les explications de Virginie Riva.
C'est un coup politique sous forme juridique. Voilà l'analyse d'un ancien sage du Conseil constitutionnel. Avec cette saisine, Emmanuel Macron atteint selon lui 2 objectifs, couper l'herbe sous le pied des oppositions et en même temps calmer le jeu dans sa propre majorité où le texte avait crispé. 50 députés marcheurs s'étaient abstenus du jamais vu depuis le début du quinquennat. Des abstentionnistes qui auraient pu se joindre au recours qui sera également déposé par l'opposition. Là, ils peuvent s'estimer entendus par le président. Un député de la majorité l'admet. C'est finement joué. À l'Élysée, on le reconnaît, le président a bien entendu les doutes légitimes sur ce texte, même si on se défend de toute manœuvre politicienne. Seul le Conseil constitutionnel peut statuer en toute objectivité, explique-t-on. Et si jamais le texte devait être censuré, le chef de l'État pourrait se prévaloir d'avoir joué son rôle de garant des libertés publiques, torpillant ainsi les procès en autoritarisme de l'opposition.
Virginie Riva.
Grosse frayeur pour une 40aine de skieurs en Haute-Savoie.
Oui, dans la station d'Avoria, ils sont restés bloqués sur un télésiège pendant plusieurs heures hier à cause de fortes rafales de vent qui avaient provoqué une panne. Ils ont été évacués un par un et sont sains et saufs. Et puis frayeur encore, mais dans un tout autre genre. En Afrique du Sud, un plongeur a été avalé par une baleine, un petit peu comme cet épisode de la Bible qui raconte que le prophète Jonas avait passé 3 jours dans le ventre d'une baleine. Mais pour lui, heureusement, ça n'a duré que quelques secondes. Le plongeur très expérimenté était en train de filmer un banc de sardines quand il a été happé par le cétacé qui s'est rendu compte de son erreur et l'a recraché. Il s'en
s'en est sorti sans une égratignure. Les images sur lesquelles on voit ses deux jambes dépassées de la gueule de la baleine ont déjà été vues plus d'un million de fois sur
vous
YouTube.
Vous n'auriez jamais dû dire ça, Hélène. Maintenant, je connais Céline et Eva. Ils vont passer le reste de l'émission à fouiller sur YouTube pour regarder cette vidéo. Je vous raconterai une fois la fois où j'ai failli être mangé par un requin. Une histoire vraie, je vous la raconterai.
Mais non.
C'est
en
vrai,
Suisse,
en plus. Non, mais en oui. Floride, je vous la raconterai. Mais pas tout de suite, comme ça je crée une sorte de suspense.
Ah bah oui,
je
ne
sais pas quand je vous la livrerai, mais je vous la livrerai. Non, pas aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui. Ah, soyons fous. C'était le journal d'Hélène Zelani. Merci Hélène. Et tout de suite, vérifions ensemble si le théorème de Bradley Cooper fonctionne aussi avec Hélène Zelani. Je rappelle que selon le théorème de Bradley Cooper, aucune femme, mariée ou pas, en ménage ou pas, ne peut résister à l'attrait du beau Bradley. Vérifions.
Putain, Bradley, mais c'est où il veut quand il veut.
Il sait tout faire.
Ah bon?
Et oui, il n'y a pas, c'est vraiment un théorème infaillible. Avec toutes les femmes, ça marche, et même parfois avec tous les hommes. On passe au journal des sports avec le Bradley Cooper d'ici les moules, Jérôme Lacroix. Alors Jérôme, à la une du JDS.
Sympa pour Bradley Cooper.
C'est vrai que ça lui fait beaucoup d'honneur. À la une, Zidane revient encore plus fort.
Il est
Jérôme.
De retour au poste d'entraîneur du Real Madrid et cette fois, il aura les pleins pouvoirs sur le projet sportif parce que peut-être s'en souvient-on peu, mais quand Zizou a choisi de quitter le poste qu'il retrouve aujourd'hui, hein, il y a 9 mois, eh bien tout n'était pas si rose. Certes, il venait de remporter 9 titres dans 3 Ligues des Champions d'affilée en seulement 2 saisons et demie, c'est pas rien, mais Zidane avait traversé une période trouble début 2018 et il s'était plaint aussi de ne pas avoir la main mise sur le recrutement des joueurs. Cette saison, il n'y a plus rien à gagner au Real, élimination en Ligue des Champions, distancé en championnat d'Espagne. Zizou est là pour préparer la saison prochaine et parmi les joueurs à démarcher, il y a Neymar, comme le souligne l'ancien bleu Alain Roche, consultant Europe 1.
On sait que le Real Madrid cherche à tirer Neymar déjà depuis 2 ans. Les déclarations de Neymar ne nous semblent pas anodines non plus. Il paraît que ça fait depuis 2 mois qu'il se parle entre les dirigeants et le joueur et le papa. Florentino Pérez est obligé de marquer les esprits en faisant un grand recrutement et en renouvelant son effectif. Il y a un impact aussi, c'est les élections l'année prochaine. Ce renouvellement de son bail ou pas en tant que président.
Alain Roche, consultant européen au micro de Jean-François Pérez. D'autres joueurs pourraient être ciblés comme le Belge Hazard et bien sûr Kylian Mbappé. Le contrat de Zidane court jusqu'à qu'en 2022. Premier entraînement dès aujourd'hui. Ce soir, Ligue des Champions, 2/8 de finale retour. 21h, Manchester City, Schalke 04. Victoire mancunienne 3-2 à l'aller. Et Juventus Turin, Atlético Madrid. Victoire madrilène 2-0 à l'aller. Demain, Barcelone Lyon 0-0 à l'aller. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h.
Également aujourd'hui, Jérôme, les mondiaux de biathlon qui se poursuivent en Suède.
15h30, l'épreuve individuelle dame. Anaïs Bescon, triple médaille olympique et forfait. Côté français, les espoirs du directeur technique Michel Vion se portent plutôt sur les garçons demain et dimanche.
Chez les filles, c'est un peu plus difficile. On était irréguliers durant tout l'hiver, donc c'est un peu compliqué. Mais chez les garçons, il reste des belles pages à écrire, je crois. Et puis, on voit que nos gars sont en forme. Ils se battent comme des chiens, y compris Martin Fourcade, qui est quand même en difficulté, il faut le dire. Attention aux bêtes blessées. Je suis persuadé qu'il va nous faire un coup avant la fin.
Des propos recueillis par Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 en Suède.
Personnalité du jour,
oui,
Jérôme.
La tuile, j'ai choisi le cycliste français Warren Barguil, le meilleur grimpeur du Tour 2017. Il ne sera pas ce matin au départ de la 3e étape de Paris-Nice. Abandon hier. Après une chute lors de la 2e étape, il souffre d'une double fracture d'une cervicale. Oui, étape qui arrivait à Bellegarde dans le Loiret, remportée au sprint par le néerlandais Groenewegen. 2e succès consécutif. L'étape du jour s'est courue à une vitesse moyenne de plus de 50 km à l'heure.
Bah comment c'est possible? Mon scooter, j'atteins pas cette moyenne.
Mais...
C'est scandaleux.
Bah oui, mais...
j'ai un gros moteur.
Bah, je sais pas, j'ai
un pédalé sur le scooter.
Ah oui, essayer de mettre des pédales en plus sur le scooter.
Bon. Bon.
Mais il y en a déjà des pédales.
Cessez de vous moquer de moi. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on dit,
c'est
Eva?
Merci beaucoup. C'était le Jérôme des sports de Jérôme Lacroix.
Voilà, presque. On a compris, c'est l'essentiel.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, vous amuse et prend même votre température. Chaque matin, le docteur Ichou vous prend en consultation exclusive. Aujourd'hui, il nous parle de la fièvre. Est-ce qu'il faut forcément essayer de la faire baisser? À partir de quelle température faut-il consulter? Comme nous le répète toujours le docteur Ichou, il faut distinguer le symptôme de la cause. Par exemple...
J'ai chaud. C'est la ménopause?
Là, inutile de prendre le Doliprane.
Oh,
ça ne sert à rien.
Il
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'heure de faire un point sur la météo avec vous. Céline, l'arrivée d'une nouvelle perturbation, ça sera par le nord-ouest aujourd'hui.
Effectivement, hein, par les côtes de la Manche avec des averses parfois soutenues. Les premières arriveront dès ce matin sur la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire. Et puis cette perturbation va se décaler vers le sud-est en traversant la France. En attendant le passage de cette perturbation, le ciel sera plutôt agréable avec de larges éclaircies, même s'il va se voiler évidemment et devenir de plus en plus nuageux à l'approche de cette perturbation. Côté température, ça remonte cet après-midi. 11 à Lille, 12 à Rouen, 13 à Paris, 16 à Lyon et Marseille, 19 à Clermont-Ferrand et 20 degrés pour la maximale à Tarbes. En attendant, ce matin, il fait frais. On a même des gelées qui sont de retour, donc on se couvre bien.
Merci Céline. Eva Rock.
Le 12 mars 1613 naissait André Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV. Alors à cette occasion, pour...
Mais non, pas son prêteur.
Qu'est-ce que c'est que ça?
La rosage automatique. Mais à Versailles,
il n'avait pas le rosage automatique.
C'est dommage.
À cette occasion.
Et pourquoi pas? Il y avait bien les fontaines de Versailles, les grandes eaux.
Oui.
Pour actionner les fontaines, vous imaginez ce qu'il fallait comme... Mais non, mais comme tuyau, comme tuyauterie et tout ça.
Et
peut-être ils auraient pu inventer l'arrosage automatique aussi. Qui sait, voilà. Faudrait s'enseigner là-dessus.
Bon. Quelqu'un sur qui Twitter, pédalait quelque
alors,
part.
Je vous en lis qu'un de messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Guillaume nous répond: j'aime cultiver le potager mais pas les fleurs, j'aime ce qui est utile mais pas le périssable. Ça m'a rendu un peu triste parce que les fleurs c'est toujours très joli et puis c'est bien. Voilà.
Les fleurs c'est toujours très joli et puis c'est bien. Une citation à 5h42 des Baroques qui restera certainement à la postérité. Merci Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Et c'est l'heure de notre rubrique santé. Bonjour Marcel Ichoux.
Bonjour Mathieu.
On parle ce matin d'un symptôme qui survient lors des grippes et parfois des rhumes l'hiver, mais pas seulement, il s'agit de la fièvre. Éclairez-nous Marcel, la fièvre est-elle toujours due à une infection et est-ce qu'on doit forcément s'inquiéter?
Notre corps possède des mécanismes complexes pour garder notre température aux environs de 37 degrés. Le principe est le suivant, il est complexe mais il est efficace. On a production d'énergie pour augmenter la température, quand vous frissonnez par exemple, et déperdition d'énergie quand le phénomène de sudation se passe pour faire baisser la température. On appelle ce phénomène la thermorégulation.
Qu'est-ce qu'on doit faire alors quand on a de la fièvre ?
Si la fièvre est aiguë, récente, brutale, on peut avoir recours, comme tout le monde, au paracétamol. Encore que la fièvre est le symptôme d'une agression qui permet de nous alerter sur le fait que notre corps réagit, mais réagit à quoi ? C'est le gros problème. Sauf gros inconfort, il n'est pas nécessaire de se ruer sur votre boîte à pharmacie. Pour ne pas prendre n'importe quoi parce qu'on n'a que ça sous la main, et je vous assure que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est souvent ce qu'on me dit, et surtout ne pas masquer l'évolution d'une maladie, dont l'exemple le plus frappant est celui de l'appendicite. Si vous couvrez la fièvre et que vous laissez l'appendicite
on
évoluer...
On ne se rend pas compte qu'on a l'appendicite en fait,
et elle
c'est la péritonite.
Mais voilà, Mathieu, franchement, je n'ai plus rien à vous apprendre.
Vous savez, je touche ma bille un peu aussi. Hein. Quand on est hypochondriaque, on s'enseigne.
Donc, gardez toujours à l'esprit qu'avant de vouloir effacer le symptôme, il faut rechercher la cause. Et avec du bon sens, si l'état général n'est pas impacté, on peut prendre pendant 3-4 jours du paracétamol ou de l'ibuprofène. Mais au-delà de ça, allez voir votre médecin.
Allez voir Marcel Ichoux. À demain, 5h40, pour un nouveau point santé.
Europe 1. Il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures journalistiques comiques pour un réveil informé, mais joyeux à suivre un bond dans le passé. Avec une question, vous vous souvenez de ce bruit ?
Oui, Internet.
Eh oui, si oui, c'est que vous n'êtes pas un millénial et que vous avez connu comme moi les débuts d'Internet. Piégé les filles. Justement, à l'occasion des 30 ans du net, les scientifiques ont recréé le tout premier navigateur de l'histoire et c'est là qu'on mesure les progrès effectués. Rappelons pour mémoire qu'à l'époque, même les scénaristes d'X-Files n'avaient visiblement qu'une idée assez vague de comment fonctionnait Internet.
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone.
Eh oui, on y vient, mais d'abord un peu de musique avec Be Alright. C'est Dean Lewis sur Europe.
Il est 5h48, voici l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Yes, concert de klaxons et applaudissements en Algérie. Sous la pression populaire, le président Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, renonce finalement à briguer un cinquième mandat. Il annonce le report du scrutin présidentiel, mais en attendant, il reste chef de l'État. Deuxième vote du Parlement britannique sur le Brexit aujourd'hui après le rejet massif de janvier. Il n'y aura pas de troisième chance, avertit Bruxelles. La première ministre Theresa May a assuré hier avoir obtenu de nouvelles garanties contraignantes après des discussions de dernière minute à Strasbourg. Elles éviteraient notamment le retour d'une frontière physique en Irlande. Irlande du Nord. Le Brésil doit en principe intervenir dans 17 jours. Enfin, Zizou, de retour au Real Madrid, l'icône des Bleus retrouve les fonctions d'entraîneur de son club de cœur. 9 mois après avoir démissionné, le club castillan, éliminé de la Ligue des Champions la semaine dernière, traverse actuellement une crise de résultats.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 12 mars. Et tout de suite, pour savoir sur qui miser à Chantilly, on retrouve notre expert hippique José Coves, fin analyste des chevaux, mais aussi des journalistes. Il suit de près les performances d'Eva Rock.
En prenant de l'âge, elle a élevé son niveau, elle est dans une bonne spirale.
Bravo Eva, mais les chevaux. Bonjour José Coves.
Bonjour la Dream Team. Oui, le numéro 1, On the Sea, non partant, 15% vont galoper sur la piste en sable de l'hippodrome de Chantilly. Dans cette première course, je retiens en priorité le numéro 5, Rebel Lightning. Il est très à l'aise sur cette surface. Il est incontournable. Le 9, Crybaby, vient de se balader à Cagnes-sur-Mer. C'est aussi le cas du numéro 11, Aprilios. Il est en plein épanouissement. Dégrisement, le 4 a déjà gagné sur ce profil. Et l'excellent Pierre-Charles Boudot est en selle pour le lui rappeler. Quant au 14, Keravnos, il faut mieux le racheter. On peut retenir aussi le 13, Nuée Ardent. Son retour à la compétition est très prometteur. Le 10, Inzeo, il est sur sa meilleure rampe de lancement. Et enfin le 6, Jumping Jack Flash, il se déplace du sud-ouest avec de très grosses ambitions. Mon ticket pour cette première course vers 13h45. D'abord le 5, le 9, le 11, le 4 et le 14. Et l'on ajoute le 13, le 10 et le 6.
Moi, José, j'aime bien Jumping Jack Flash. Ça me rappelle les Rolling Stones.
Ah, Jumping Jack Flash n'est pas entraîné par Keith Richards et Mick Jagger n'est pas son jockey. C'est bien dommage, il a remis le feu à l'hippodrome. En revanche, lorsqu'on regarde sa musique, la musique d'une ce numéro 6, il n'a aucune fausse note à son palmarès. Quoi qu'il arrive, Mathieu, les Stones feront toujours la course en tête.
Merci beaucoup, José. Oh, que de souvenirs, toute mon enfance. Non, non, mais bon.
Il est 5h50.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains, continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici mardi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saffre pour l'actu du web, Nicolas Caro pour la littérature. Nicolas, qui est plus qu'un collègue pour moi, un véritable ami. Et entre amis, vous le savez, on peut tout se dire, tant que c'est fait avec tact et gentillesse. Deux mots qui me résument si bien, comme Nicolas a pu le constater jeudi dernier lorsqu'il s'était présenté à nous, comme aujourd'hui d'ailleurs, équipé d'une veste gris foncé sur une chemise bleu nuit, association plus jamais tentée depuis Adamo dans le Scopitone de Tombe-la-Neige. Alors toi, tu crois qu'on peut mettre une chemise bleu nuit avec un costume gris anthracite ?
Moi, je trouve que oui, mais enfin...
Très bien. Alors... C'est seulement en réécoutant que je découvre à quel point je suis une enflure. Comme quoi, ça m'aide de faire cette émission.
Ouais. Oui, ouais. Oui, c'est vrai. Type sweatshirt comme vous kaki aujourd'hui. Oui, oui.
C'est vrai, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais pas surmonté de quelque chose qui jure avec. Oh, ça y est, je ne veux pas m'empêcher d'être une
enflure. Moi, j'aime bien. Oh,
je mérite le fouet. Nicolas. Mais évidemment, je plaisante. Nicolas Caro, vous êtes notre expert littérature ce matin. Vous nous emmenez à l'hôtel. Comme ça, directement. Un hôtel, je rassure les auditeurs, un hôtel littéraire. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ce sont des hôtels à thème et le 21 mars prochain, un hôtel 4 étoiles dédié à Arthur Rimbaud dans le 10e arrondissement de Paris sera inauguré. Il se trouve donc non loin, vous l'aviez deviné, de la gare de l'Est.
Évidemment,
là où Rimbaud arriva en 1871 en provenance de Charleville pour rejoindre Verlaine qui lui avait écrit « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend ».
Et il y a quoi dans cet hôtel ?
Tout est Rimbaud.
Des chambres.
La momie de Rimbaud.
42 chambres à la réception et au salon. Des portraits du poète, des livres, évidemment, une bibliothèque de 500 livres, des versions multilingues de ses œuvres et sa correspondance, des éditions originales et des manuscrits sont exposés aussi. Dans l'entrée, il y a un plafond peint inspiré du bateau ivre. Le bateau ivre, je rappelle, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloué nu au poteau de couleur. À chaque étage correspond un pan de l'œuvre ou de la vie du poète. Au troisième, par exemple, ce sont les chapitres d'une saison en enfer et les poèmes des illuminations. Au dernier étage, ce sont les villes de Rimbaud, Charleville, Aden, Londres, Bruxelles. Il y a des chambres consacrées à ses amis, Verlaine ou Étienne Carjat. Et il y a bien sûr un livre sur chaque table de chevet, évidemment. Alors il faut être fan, parce que c'est total. Même les tasses à café sont siglées Rimbaud.
Et si on préfère Flaubert, par exemple ?
Eh bien, vous allez à Rouen. Il existe un hôtel Flaubert. En fait, c'est un collectionneur et bibliophile, Jacques Le Tertre, qui a créé la Société des hôtels littéraires. Et il en a plein. Il y a donc Rimbaud, Flaubert, mais aussi Proust, dans le 8e arrondissement de Paris. À Clermont-Ferrand, vous pouvez descendre à l'hôtel Alexandre Vialat. Et Marcel Aimé, à Montmartre. Les tarifs commencent à 100 euros la nuit. J'en profite pour vous signaler, puisqu'on parlait de Rimbaud, que les éditions des Saint-Père publient aussi la semaine prochaine les manuscrits de l'homme aux semelles de vent. Ils font ça comme toujours dans un joli coffret, c'est sublime.
une semaine Rimbaud la semaine prochaine. Donc, l'hôtel est inauguré le 21 mars,
c'est
faut le signaler. Merci Nicolas. J'ai une idée qui me vient. Un hôtel Agatha Christie, avec, il y aurait une enquête pour trouver sa chambre.
Avec un Cluedo, hein, une sorte de Cluedo.
Ça serait bien, ça. Ça existe.
Oui, il me semble. Je vais vérifier.
On vérifiera ça. Merci beaucoup.
Il y a l'hôtel Boris Vian, m'a dit.
Oui, Boris Vian,
mais j'ai pas trouvé.
Ouais.
Très bien. On n'a plus le temps, me dit-on en régie, où visiblement on n'apprécie pas la littérature. Le numérique, avec vous Clément Le Saffre, on célèbre aujourd'hui les 30 ans du World Wide Web.
Eh oui, dans le studio ou chez vous qui nous écoutez, attachez vos ceintures, je vous emmène faire un tour dans ma DeLorean. Direction 1989, Apple est une entreprise qui va mal, les téléphones portables pèsent encore plusieurs kilos et un Facebook n'est encore qu'un trombinoscope en papier. Mais voilà, en Suisse, dans les laboratoires du CERN, c'est le Conseil européen pour la recherche nucléaire, rien que ça.
C'est là que tout a démarré.
Un homme s'apprête à changer le monde, il s'appelle...
Mon père.
Tim. Je ne le connais pas, mais il s'appelle en tout cas Tim Berners-Lee, c'est un ingénieur britannique. Et le 12 mars 89, il invente le principe du World Wide Web, un réseau mondial de partage d'informations. C'est le célèbre 3W qui était né.
Et aujourd'hui, Clément, il est possible de revivre les débuts balbutiants du web.
Ouais, c'est une expérience assez amusante, rendue possible grâce à une équipe de développeurs. Ils ont été conviés par le CERN à recréer le tout premier navigateur de l'histoire. Ça s'appelle Nexus. Il a été créé en 1990. Alors pour bien visualiser, il faut imaginer une page web très aride, sans couleur. Il n'y a que du texte écrit tout petit, pas la moindre image ou le petit logo pour égayer tout ça. Et le menu utilisé pour naviguer est carrément archaïque.
Est-ce qu'on peut quand même s'en servir pour surfer sur le web? Ça marche?
Ah, absolument, c'est tout à fait fonctionnel, mais rien n'est intuitif. Hein, oubliez la fluidité de Google ou de Firefox auquel on est habitué aujourd'hui. Sur Nexus, tout se mérite. Pour accéder à un site, il faut entrer son adresse complète. C'est assez troublant. Il faut vraiment savoir où on veut aller. Hein. Du coup, la difficulté rend vite l'expérience un peu lassante, faut le dire. Mais c'est assez vertigineux de voir les progrès accomplis en 30 ans sur le web. Alors pour que vous puissiez essayer, je vous ai mis le lien sur Twitter.
Super.
Et sur le site d'Europe 1.
Et c'est pour montrer, ça peut permettre de montrer aux jeunes ou aux enfants,
oui.
Parce que nous, on a connu cette époque-là.
Mais, ah ouais. Non, mais c'est vrai, c'est combien de progrès on a fait en si peu de temps, quoi. C'est incroyable.
Moi, je ne l'ai pas connu et c'est assez fou.
Oui, oh bah
c'est vrai
va,
que vous ne l'avez pas connu, mais c'est de le rappeler, c'est insultant. Merci beaucoup, Clément Le Saffre, notre expert nouvelle technologie. Me pensez-vous, c'est le Moyen-Âge pour lui. On passe aux écrans avec vous.
Oui, je voulais vous parler d'une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Chronique Fiction. Elle décrypte l'univers du cinéma. C'est la passion de deux garçons, Mike Zonenberg et Fabio Soares. Ils sont tous les deux réalisateurs de courts-métrages, des anciens publicitaires. Et donc, depuis le mois de novembre, ils s'attellent à cette nouvelle chaîne YouTube et c'est très, très réussi. Chaque vidéo débute dans une salle d'autopsie. Il y a un cadavre et le médecin légiste qui va analyser les morts emblématiques du cinéma, comme Vincent Vega dans Pulp Fiction. Le réalisateur Quentin Tarantino ne transigera pas, il lui faut absolument, pour Vincent Vega, John Travolta.
Si ce personnage est aussi intéressant, c'est surtout grâce au choix de Travolta pour le casting. Le film sort dans les années 90, la carrière du comédien est alors dans le creux. Personne n'aurait pensé à lui pour un tel rôle. Un coup de génie de la part du réalisateur, fan de Travolta dans sa jeunesse. Ah, Grise. On savait danser à l'époque.
Et oui, Travolta qui meurt à la moitié du film en sortant des toilettes, une
c'est
mort pas très glorieuse.
C'est bien de le dire pour si jamais il y a des gens qui n'avaient pas vu Pulp Fiction.
Non, c'est pas grave. Après avoir décrit, mais non, mais c'est pas grave, parce que c'est pas ça l'intérêt. C'est comment on peut avoir un super-héros et se battre pour avoir un acteur et puis le faire mourir vraiment de façon pas très glorieuse. Après avoir décrypté le personnage de Vincent Vega, d'ailleurs, notre médecin légiste va plus loin et prouve à quel point le héros de la série Breaking Bad, Walter White, ressemble à Travolta dans Pulp Fiction. La démonstration, elle est stupéfiante. Il y a aucun doute avec une mise en parallèle des différents plan. C'est extrêmement pertinent alors quant à l'analyse et c'est très bien fait en termes de réalisation. Rarement, les vidéos produites par une chaîne YouTube n'appartenant pas à un studio et donc ne bénéficiant pas d'aide financière conséquente ont atteint une telle qualité
ça
en moins
plu,
de 5 mois d'existence. J'ai adoré.
Vous vous rappelez le nom?
Ça s'appelle Chronique Fiction.
Chronique Fiction.
Et ça a déjà séduit plus
Chronique
de 120 000
avec un K.
Avec
il
un
faut
K.
le préciser, sinon
plus
on trouve
de 120 000
pas.
Abonnés déjà, succès amplement mérité.
Merci beaucoup Eva Rock, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Clément, c'est votre deuxième semaine parmi nous, ça va?
Ça va, ça va.
C'est ça la jeunesse.
Enfin, Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
L'heure de la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta.
Oui.
De la pluie et du vent pour la Bretagne
oui,
aujourd'hui.
Oui, c'est une nouvelle perturbation qui arrive ce matin par les côtes de la Manche, qui va toucher en premier donc la Bretagne, avec des averses qui seront soutenues et qui vont gagner ensuite les Pays de la Loire, la Normandie, le Pas-de-Calais. Ça, c'est pour ce matin. Elles seront soutenues et accompagnées de bonnes rafales de vent, puisqu'il va souffler jusqu'à 80 km/h, même à l'intérieur des terres, puisque cette pluie va se décaler vers le sud-est dans le courant de la journée. Mais en attendant, ce sera calme en soleil. Même si le ciel sera voilé à l'approche de cette dégradation.
C'était vraiment malin de ma part de planter des tomates ce week-end, puisque vous nous dites, au moment de parler des températures, qu'il y a des gelées ce matin.
Oui, mais pas à Paris, vous êtes tranquille, hein, surtout pas sur votre balcon. C'est surtout dans l'Est, hein, qu'on va les retrouver ces gelées, avec des températures négatives. Ça va remonter cet après-midi, rassurez-vous, avec de la douceur un peu partout. 11 à 16 degrés en moyenne pour la moitié nord, avec 13 à Paris, et de 15 à 20 degrés pour la moitié sud.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.